Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. À la une, la célébration de la journée internationale des peuples autochtones. Au Mali, les résultats de l'enquête sur l'attaque du village de Sobanda qui avait fait 35 morts. Nous verrons comment les femmes saoudiennes peuvent désormais voyager librement sans l'autorisation de leur tuteur. Et puis un dossier coup de projecteur sur l'expo photo « Quand je serai grande, je serai ». Le Monde célèbre ce 9 août la Journée internationale des peuples autochtones et par la même occasion l'Année internationale des langues autochtones qu'a instaurée l'Assemblée générale des Nations unies. Cette double célébration est l'occasion d'attirer l'attention sur l'urgente nécessité de préserver, revitaliser et promouvoir les langues autochtones qui sont menacées de disparition. Pascal Sim nous en dit plus.
Près de la moitié des quelques 6700 langues recensées dans le monde sont menacées de disparition et nombre d'entre elles sont des langues autochtones. Le secrétaire général de l'ONU a rappelé l'importance de ces langues grâce auxquelles nous communiquons. Elles sont inextricablement liées à notre culture, notre histoire et notre identité, a dit Antonio Guterres. À chaque fois qu'une langue disparaît, le monde voit se perdre tout un savoir traditionnel, a-t-il alerté. Le monde compte actuellement environ 370 millions d'autochtones. Beaucoup sont encore privés de droits élémentaires et continuent de voir leur mode de vie, leur culture et leur identité menacés par une discrimination systématique et l'exclusion. Une situation en contradiction avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des objectifs de développement durable qui promettent de ne laisser personne de côté. Antonio Guterres compte sur les États membres pour inviter et aider les peuples autochtones à décider de leur développement au moyen de politiques inclusives, équitables et accessibles. Le secrétaire général a rappelé que l'ONU est prête à soutenir toutes les initiatives visant à réaliser les droits et les aspirations des peuples autochtones.
Au Mali, la mission de l'ONU a présenté jeudi les résultats de son rapport sur les atteintes aux droits de l'homme commises lors de l'attaque du village de Sobanda en juin. Le document confirme le bilan officiel de 35 morts, dont 22 enfants de moins de 12 ans, tous de la communauté Dogon, et écarte le caractère religieux alors attribué à l'attaque par certains observateurs. Une correspondance de Mikado FM.
Dans son intervention, le chef de la section droits de l'homme de la MINUSMA dira que ses services avant le drame avaient documenté pas moins de 40 incidents violents à caractère communautaire. Guillaume Ogefa.
La division des droits de l'homme et de la protection avait déjà documenté pas moins de 43 incidents violents liés à des tensions communautaires sur l'ensemble des trois communes adjacentes au village de Sobanada. Et parmi ces incidents, la division des droits de l'homme en a documenté 9 depuis mai 2018, dans un rayon de 10 km autour du village de Sobanada.
Le document confirme le bilan de 35 morts, dont 22 enfants de moins de 12 ans. Le document fait un certain nombre de recommandations au gouvernement et Guillaume Guefa, chef de la section droits de l'homme de la MINUSMA.
Nous recommandons à ce qu'on mette en œuvre les décisions annoncées par le président de la République pour le désarmement effectif et sans délai des éléments armés non étatiques impliqués dans les violences commises au centre. Et puis, on demande à l'État de condamner systématiquement et publiquement et enquêter sur les incitations à la haine, à la violence et prendre toutes les mesures appropriées pour interdire ces appels.
Tchikura Guita pour Mikado FM.
Et puis des experts des droits de l'homme des Nations Unies se sont félicités jeudi des décrets royaux autorisant les Saoudiennes à voyager de manière indépendante sans l'autorisation de leur tuteur. Selon les experts, ce système de tutelle violait au moins trois droits majeurs, le droit à la liberté de mouvement, l'égalité entre les sexes et le droit à la vie privée. Les nouveaux décrets représentent une avancée mais il faut faire plus, estime le rapporteur spécial sur le droit à la vie privée, Joe Kanatachi.
Ça signale la fin de ce système de tutelle. Il faut bien rappeler que toutes les femmes, n'importe quelle femme, c'est-à-dire quelqu'un qui voyage à l'étranger pour aller à une conférence, pour étudier, on a compté qu'il y a plus de 1000 femmes par an qui volaient les téléphones mobiles de leurs parents, de leurs maris, pour pas les laisser utiliser l'app qu'on peut utiliser sur le mobile pour suivre les mouvements des femmes. Alors, c'est pour ça que j'ai bien accueilli ces décrets parce que finalement, on peut voir que les autorités du Royaume de l'Arabie Saoudite sont sérieuses et qu'ils veulent reconnaître les droits de l'homme. Mais il faut aller plus loin. On ne veut pas que demain, dans 2 ans, dans 10 ans, à notre sultan, à notre roi, qui n'a pas le même avis, change les choses et que les femmes perdent une autre fois leurs droits fondamentaux. Il faut insérer ces droits dans la constitution du royaume de l'Arabie Saoudite et comme ça, il y aura aussi un renforcement des droits de l'homme dans ce royaume.
Alors qu'il était en Centrafrique pour documenter l'impact de la crise sur les enfants, le photographe Vincent Trémaux a invité certains d'entre eux à oublier leur passé et à se projeter dans l'avenir, à partager leurs espoirs. Par le jeu du déguisement, il leur a posé cette question: que veux-tu faire quand tu seras grand? 5 ans plus tard, Vincent Trémaux a parcouru 15 pays pour un autre projet photographique focalisé sur les filles, One Day I Will, ou encore Quand je serai grande. Lors du vernissage de cette exposition au siège des Nations Unies à New York, Florence Westergaard l'a rencontré.
Donc j'ai commencé ce projet il y a 5 ans en République centrafricaine. À cette époque, j'étais en reportage pour documenter la situation en Centrafrique qui faisait face à une situation humanitaire terrible. Et je me suis retrouvé dans une situation où j'ai rencontré des jeunes enfants qui étaient, à cause de la guerre et de la crise humanitaire, étaient privés d'école depuis plus d'un an. Et je voyais tous ces enfants qui couraient dans tous les sens et qui voulaient absolument être sur mes photos. Je me suis dit, comment vais-je aborder la question de l'accès à l'école, l'accès à l'éducation? Je voulais raconter leur histoire, mais sans pour autant ressasser les traumas du passé. Ces jeunes enfants, comme les adultes, avaient fait face à des atrocités innommables au cours de la dernière année. Et donc, j'ai voulu aborder le futur et les espoirs sur le futur. Et c'est comme cela que je leur ai posé cette question: que veux-tu faire quand tu seras grand? Mais pour pimenter un peu tout ça, et parce que les enfants sont pleins de joie, pleins d'énergie, je voyais bien qu'ils voulaient être sur les photos systématiquement. Je me suis dit, pour accompagner cela, il faut qu'on puisse interagir. Et je voulais que ce soit aussi pour eux l'occasion, que ce soit aussi une activité créative. Et comme effectivement ces enfants avaient, en Centrafrique, avaient entre 8 et 12 ans et on ne parlait pas la même langue, et il est difficile en fait quand on est enfant de s'exprimer avec un adulte. Et comme on ne parlait pas la même langue, j'ai voulu utiliser le costume comme langage universel et comme moyen d'expression. C'est comme ça que je leur ai demandé d'aller trouver de quoi créer un costume dans leur environnement proche pour pouvoir exprimer ce qu'ils voudraient devenir quand ils seront plus grands.
Et donc vous avez fait ça en Centrafrique, après vous avez fait ça aussi en RDC, vous avez fait ça dans plusieurs pays du monde, n'est-ce pas?
J'ai commencé ce projet sans réfléchir, c'était plus une façon d'interagir avec ces enfants, de leur faire plaisir. Et quand ils sont arrivés, j'étais vraiment émerveillé par toute cette énergie et cette créativité. Et donc c'est après cela que, quand je me suis rendu au Congo, comme j'avais été émerveillé cette première fois, je me suis dit, tiens, si on le refaisait au Congo et voir qu'est-ce qu'il se passe. Quand j'étais en Centrafrique, ce qui m'avait aussi interpellé, c'était que les perspectives représentées par ces enfants, le contexte dans lequel ils évoluaient, directement influençaient leurs aspirations pour le futur. Par exemple, dans cet endroit-là, j'ai rencontré des jeunes qui voulaient être collecteurs de diamants. Pourquoi ? En RCA, c'est une zone où on collecte les diamants. C'est d'ailleurs à cause de cela qu'il y a un nombre de conflits, malheureusement. Et en RCA, il y a aussi une citation qui dit « Le diamant est clair, mais le tableau de l'école est noir ». Pour dire que, malheureusement, pour beaucoup de parents, l'école n'offre pas d'opportunités là où la recherche de diamants peut supposément rendre riche en un coup de pioche. Là-bas, malheureusement, beaucoup de parents prennent leurs enfants et les enlèvent de l'école pour les envoyer chercher des diamants. Et donc, cet exemple illustre le fait que comment la zone dans laquelle ils évoluent influence leur aspiration. Et du coup, quand je suis allé au Congo, je suis allé dans une école, j'ai discuté avec un professeur et je lui ai dit, voilà, je vous propose de demander à vos élèves, si ça les intéresse, de réfléchir sur ce qu'ils veulent faire quand ils seront plus grands et s'ils peuvent venir déguisés en ce qu'ils veulent devenir. Et le lendemain, les enfants sont revenus déguisés.
Donc justement, votre exposition montre ces jeunes filles. Donc quel genre de profession vous avez pu...
On a une jeune fille au Congo, par exemple, qui, elle, voulait tresser des paniers parce qu'elle m'a raconté que si on allait la forcer à se marier à un homme irresponsable, elle allait devoir gagner de l'argent pour pouvoir nourrir ses enfants. Et donc ce niveau de pragmatisme ou même d'analyse sur sa vie à venir, j'ai trouvé ça terrible finalement. Et c'est pour ça que dans cette exposition sur les jeunes filles, je trouve très important qu'on puisse aborder au travers des espoirs, on se projette sur l'avenir, mais c'est notre devoir que de leur donner les moyens de pouvoir accomplir leurs espoirs et leurs rêves. Et tout cela commence par l'école.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur Internet, mais aussi sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.